ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui, avec Madame Anne-Gaëlle Attias, merci d'être venue dans notre radio catholique. Vous êtes d'abord étudiante en rabbinat en troisième année et vous allez nous parler de vos convictions, de votre pratique et de votre parcours. Alors, dites-nous, votre famille était une grande famille croyante ou...
Bonjour, merci de me recevoir. Alors, donc moi je suis étudiante rabbin, donc en troisième année, vous l'avez dit. Je viens d'un milieu juif, traditionnel, consistorial. J'ai grandi dans les écoles juives parisiennes, dans une famille d'origine marocaine. Le judaïsme était assez important à la maison, sans que nous soyons très très pratiquants. Nous pratiquions, on va dire...
Pour le Shabbat.
Voilà, pour le Shabbat, mais de manière assez cool. Voilà. Shabbat, on marque quel Shabbat, mais de manière assez cool. On n'était pas strictement observant. Voilà, mais en tout cas, traditionnel, on va dire, traditionnel. Et puis, à l'âge de 20 ans, je me suis tournée, moi, vers le judaïsme libéral, sans que ça devienne pour autant une carrière, puisque j'ai été journaliste à la télévision pendant plus de 20 ans. Et il y a quelques années, j'ai décidé de me réorienter vers une école rabbinique pour devenir rabbin au sein du mouvement libéral.
Avec un moment fort dans votre vie, je crois, c'est la bat mitzvah.
Alors oui, ça c'est un petit peu marrant.
Habituellement, ça se fait à 13 ans.
Ça se fait à 12 ans.
Et pour
même
les garçons seulement.
Pour les filles. Alors, la bat mitzvah se fait aussi pour les filles maintenant dans le milieu consistorial. Mais à mon époque, c'est pas du tout à la mode. Il faut savoir que dans le milieu traditionnaliste, la bat mitzvah a un caractère beaucoup moins important que la bar mitzvah. Donc à mon époque, je vous parle de ça il y a plus de 30 ans, ça se faisait pas trop, c'était à peine le début, voilà. Donc mes parents n'avaient pas jugé utile que je la fasse, j'avais pas réclamé non plus d'ailleurs. La plupart de mes amis ne l'avaient pas faite, donc ça me... Et quand je suis arrivée dans le milieu libéral, au bout de quelques années, je commençais à chercher quelque chose, j'avais besoin d'un cap à un moment, et le rabbin Pauline Beb... je vais la voir, j'ai 38 ans, et je lui dis, écoute, j'ai besoin de passer un cap, il se passe quelque chose, je sens qu'il se passe quelque chose dans ma vie, il faut que je trouve quelque chose pour passer un cap. Et elle me dit, mais pourquoi tu ne ferais pas ta part de mitzvah? Je la regarde interloquée, je lui dis, tu es au courant que j'ai 38 ans? Et elle me dit, bah oui, mais fais-la quand même. Et elle avait raison. Et elle avait raison parce que ça m'a bizarrement, ça m'a donné les moyens de faire de ce que je voulais. Faire ce que je voulais et de me donner la liberté de me dire bah oui, je peux laisser tomber la télé, je peux laisser mon métier et envisager peut-être de faire autre chose.
Est-ce que c'est le rite qui donne la possibilité à un enfant devenu adolescent de lire la Torah avec le doigt d'argent? Dites-nous un peu
alors,
pour les filles.
La bar mitzvah comme la bat mitzvah, c'est quoi? C'est fils ou fille du commandement. Ça veut dire que c'est une cérémonie pour dire symboliquement que vous devenez adulte religieusement. C'est la majorité religieuse. Donc vous devenez responsable. Donc dans le symbole, on va, dans les communautés traditionnelles, demander aux garçons de lire dans la Torah, chose que les enfants n'ont pas le droit de faire. Et puisque lui, c'est un nouvel adulte, il va pouvoir le faire. Dans les communautés libérales où il y a une égalité, une stricte égalité des sexes, nous demandons également à la jeune fille de marquer son passage à l'âge adulte en lisant et en dirigeant la prière et en lisant dans la Torah. Donc voilà. Et alors, c'est vrai que c'est un moment de lire dans la Torah. D'abord, c'est technique, c'est pas une lecture simple. Il y a de la préparation et c'est un moment qui est extrêmement fort.
Mais vous lisez en hébreu et parfois aussi en français dans la prière.
Dans la prière, la lecture de la Torah et la prière, c'est deux choses totalement différentes. Dans la lecture de la Torah, elle se fait sur un parchemin. Donc la Torah, c'est le Pentateuque. Hein, donc on lit des passages du Pentateuque. On lit une péricope.
En ayant ouvert
le parchemin, le rouleau, qui a cette particularité d'être non ponctué, non vocalisé. D'où la nécessité de se préparer avant. Donc c'est une lecture un petit peu complexe pour qui n'a pas l'habitude. Et les enfants, pour la communion, s'y préparent vraiment pas facilement 6 mois avant.
La lecture de la loi fait mes délices. Vous pourriez lire le psaume 119 par cœur.
Non, moi par cœur, je lis rien
non.
du tout.
Ah oui.
Non, pas du tout. Ah. Pas du tout. Je suis pas. Bien entendu, j'ai des chants que je connais comme ça par cœur, mais je m'interdis complètement, même quand je fais l'office et que je chante pour la 200 000e fois le même psaume ou le même chant, je regarde toujours le livre. Il y a toujours un moment où mon esprit va. Et on est. C'est même une halakha, ça. C'est même une règle religieuse de dire, il faut toujours lire la prière dans le livre. Même quand on la connaît par cœur. Parce que quand vous connaissez par cœur, d'abord, à un moment, vous ne faites plus attention à ce que vous vous faites. Ensuite, vous pouvez avoir une absence. Ensuite, vous pouvez... On ne prie pas dans notre langue, le plus souvent. Donc, vous pouvez bafouiller, dire un mot pour un autre.
Oui, mais on dit souvent que lorsqu'il y a deux juifs, ils ont 4 interprétations. Et donc
oui.
Là, l'exégèse, c'est autre chose que la lecture.
Alors,
l'interprétation...
C'est complètement différent. Il faut serrer les questions. C'est-à-dire, on a la première question de la prière. La prière, elle se fait dans un livre de prière en hébreu et également en français dans le mouvement libéral. Ensuite, toujours au sein du rituel, il y a un moment de lecture de la loi de la Torah. C'est ce dont on parlait dans le parchemin, c'est le Pentateuch. Là, effectivement, on commence par lire. Lire, c'est pas interpréter. On commence par faire une lecture, mot à mot, chantée d'ailleurs, du texte. Et ce n'est qu'après qu'intervient l'interprétation. Le commentaire, on donne les explications et on en parle. Mais le moment de lecture, c'est pas un moment où on interprète. C'est vraiment un moment où on lit le texte et l'interprétation, j'ai envie de dire là, elle vient dans les signes de chant qui nous sont donnés et qui viennent ponctuer le texte. Ce n'est qu'au moment du commentaire, soit du rabbin, soit d'un fidèle, soit d'une discussion, le Shabbat, autour de cette péricope, que là va intervenir l'interprétation et on va tenter chacun de comprendre ce que nous dit ce texte qui parfois ne parle pas, il faut dire la vérité. Quand vous avez une description des dimensions du temple, il y a des moments où vous n'avez pas tout de suite...
Ou les guerres à l'intérieur de la Bible.
Voilà.
Mais la prière, on s'adresse à Dieu, on lui dit, mais Yahvé, tu as entendu ma voix, tu es mon secours.
Oui, la prière.
Alors c'est encore une autre dimension vers l'ouverture, vers l'autre, le grand autre.
Alors, dans le judaïsme, il y a 2 dimensions majeures. Il y a la dimension vers Dieu et il y a la dimension de la communauté. La communauté est centrale. C'est-à-dire qu'on prie ensemble, on peut prier individuellement chez soi, mais la vraie prière juive, elle se fait en communauté avec un minyan, c'est-à-dire 10 personnes, chez les orthodoxes,
adultes.
10 hommes, chez les libéraux, 10 hommes ou femmes, adultes, juives et adultes, qui viennent se réunir pour prier ensemble, c'est collectif. Donc oui, on s'adresse à Dieu, mais on ne s'adresse pas à Dieu tout seul. C'est la communauté qui se réunit pour s'adresser à Dieu. On peut évidemment penser à des mots personnels, mais il y a un rituel, un livre de prière qui nous guide à travers des mots. Il y a notamment la prière de la Amida, qui est composée de plusieurs bénédictions. Et alors, on dit un peu rapidement parfois que c'est la prière qui a remplacé les sacrifices du temple. Bon, c'est un peu vite fait comme raccourci, mais ça peut être vu aussi comme ça, puisqu'on a cette prière a lieu 3 fois par jour, là où prenaient place les sacrifices à l'époque du temple de Jérusalem.
Alors, il y a aussi beaucoup d'émotions quand on parle du shofar, où vous nous avez apporté un chant séfarade de Colibri, que vous allez nous présenter tout à l'heure. Nous allons l'écouter.
Shavuot
Ma foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Et Anne-Gaëlle Attias. Je vous présente de nouveau brièvement pour ceux qui auraient pris l'émission en cours de route. Vous êtes bien étudiante rabbin en troisième année, mais sans cesse entre Londres, Jérusalem et Toulouse où vous faites vos études et aussi votre pratique, puisque vous êtes ici à Toulouse en tant que...
Stagiaire. J'ai été stagiaire l'année dernière à Toulouse, c'est un stage qui a duré un mois où je venais une fois par mois, voilà, donc je ne suis en aucun cas le rabbin de Toulouse ou même la représentante de la communauté qui a des représentants tout à fait charmant. C'est une communauté très dynamique où j'étais ravie d'avoir eu l'occasion d'apprendre pendant un an.
Avec le désir d'être prochainement rabbin en France, à un endroit qui...
Que je ne connais pas encore.
Et un long parcours depuis le Maroc où vos parents sont nés, vous nous expliquiez votre jeunesse, votre conversion avec le désir d'être... d'étudier la théologie et la pratique du judaïsme libéral. Alors, pour en revenir au chant que nous venons d'entendre, c'est lorsque le croyant pense qu'il n'a pas accompli ses vœux, donc c'est tout un travail de introspection.
Le judaïsme n'aime pas trop, en fait, qu'on prenne des vœux. Vous savez, le « je jure que je vais faire ça, je m'engage à... » dans la tradition juive, on ne vous pousse pas à être super plus. On n'aime pas, pareil, la notion de nazira, c'est-à-dire la personne qui va se retrancher volontairement, qui va en faire plus que ce qu'on lui demande. On est méfiant à l'égard de ça. On est très méfiant parce que c'est se mettre dans des situations qu'on ne pourra peut-être pas honorer. Donc, effectivement, avant, au tout début de l'office de Kippour, qui commence la veille au soir, on fait une prière qui s'appelle le Kol Nidré et qui a pour but de dire, si j'ai pris des vœux, si j'ai pris des vœux sans m'en rendre compte, par exemple, je vous donne un exemple dans la vie quotidienne, combien de fois on dit à un ami, oui, je t'appellerai la semaine prochaine, et puis finalement, on ne l'appelle pas. Voilà, ça c'est typiquement un vœu, on ne se rend même pas compte d'avoir dit un vœu, mais c'est un vœu. Eh bien, on demande à ce que tous ces vœux-là soient annulés et qu'ils ne nous en soient pas tenus grief.
C'est autre chose que la faute, le péché, dans l'expression catholique. Le psaume 50, « Tu connais mon péché, ma faute est sans cesse devant moi. » Dieu miséricordieux, ou alors le Dieu qui sanctionne, qui est juste et dur.
Les deux, l'un ne va pas sans l'autre.
Et l'Éternel qui est Avinu, le Père.
Alors, Avinu, le père, le roi. Alors là, on est, j'ai envie de dire, dans un petit peu tout le vocabulaire anthropomorphique qu'on peut trouver dans la Bible, tout en sachant que dans le judaïsme, on va prendre une grande distance par rapport à ça. Il n'est en aucun cas question du père comme il peut l'exister, dans le catholicisme ou dans la chrétienté. C'est vraiment le roi, c'est plus sur le côté obéissance, le père, c'est plus sur le côté justement miséricorde, bienveillance, protection. Voilà, faut plus voir ça comme des images que comme quelque chose de très littéral.
Parfois, on oppose un Dieu qui est de tendresse chez les chrétiens au Dieu juge et vengeur de la Bible. Bon, tout ça, en fait, ce sont des représentations un peu schématiques. Et nous savons depuis Vatican II, Nostra Aetate, que il y a eu un certain nombre de contresens historiques. Si on prend, par exemple, l'évangile de Jean, qui est très anti, on va dire, judaïque, Et peut-être c'est pas pareil, l'anti-sionisme ou bien l'anti...
Alors, les différents termes n'ont strictement rien à voir et recouvrent pas du tout...
Il faut les définir.
La même réalité.
Oui.
L'anti-judaïsme, si on parle de l'anti-judaïsme, que ce soit au temps des évangiles ou même après au Moyen-Âge, on parle de quoi ? On parle de une haine ou une condamnation de la religion juive. La doc, il n'y a pas vraiment de doctrine juive, mais on peut dire comme ça, voilà, la religion juive, les préceptes juifs sont condamnés. C'est d'abord la religion juive qui est visée avant l'être juif. Quand vous arrivez à notre époque contemporaine avec les nazis, là, on est dans l'antisémitisme. C'est-à-dire que le juif, il est condamné pas pour ce qu'il croit, il est condamné pour ce qu'il est, par naissance. Et j'ai envie de dire, pour un nazi, un juif converti au christianisme reste avant tout un juif et doit être persécuté. Donc là, on est dans l'antisémitisme, dans quelque chose, je déteste ce mot, mais qui, dans les yeux des antisémites, a à voir avec la race.
Il y a aussi l'ethnie. Une question religieuse et qui faisait que,
pour finir,
parfois on a dit...
l'antisionisme. Parlons de l'antisionisme aujourd'hui.
Avec Israël.
Avec Israël. Donc l'antisionisme, si on était carré, ce serait la critique du projet de faire d'Israël des Juifs à retourner sur leur terre. Voilà, ce serait ça l'antisionisme. En soi, dit comme ça, après tout, on a le droit de critiquer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça recouvre encore une fois une réalité totalement différente qui dissimule très mal l'antisémitisme.
Avec aussi, encore, dans certains courants, non seulement catholiques, mais aussi chrétiens, protestants, le fait, cette idée, les Juifs ont tué Jésus. Or, en fait, le Vendredi Saint, maintenant, à la cathédrale et un peu partout, depuis Vatican II, on dit les autorités israélites, ce sont pas forcément les Judéens ou le peuple juif dans son entier.
J'ai
et
une
parfois aussi
à vous
les
poser.
Romains.
Qui tenait le pouvoir à cette époque ?
Oui, les Romains.
Voilà.
Et Jésus s'adresse au centurion en disant « Je n'ai jamais trouvé une aussi grande foi en Israël », mais en même temps, cette ouverture à l'universel.
Je ne vais pas vous dire que les Juifs de l'époque, historiquement, devaient adorer Jésus, ça m'étonnerait fortement,
oui.
Parce qu'effectivement, il faisait quelque chose de contraire à la loi juive, il prêchait un discours qui était contraire à la loi juive. Maintenant, l'autorité politique, judiciaire de cette époque-là, elle est tenue par les Romains.
Il y a aussi une question qui est celle du Messie.
Nous
l'avons déjà eu, mais nous l'attendons, et puis vous l'attendez.
Alors oui, et nous l'attendons, mais sous quelle forme ? Et là, je vais vous faire rire, autant de Juifs que de vision du Messie. Si vous parlez à un juif orthodoxe, il va peut-être vous parler du Messie comme un descendant du roi David, comme un homme et quelque chose
un prophète,
quelque chose d'assez concret. Si vous parlez à un juif libéral, il va peut-être pas vous tenir du tout ce discours-là. Il va vous dire, mais peut-être que nous, c'est pas tellement pour nous, le Messie, c'est pas forcément une personne. Pour nous, c'est peut-être un air messianique, c'est un air d'amélioration où les gens se seront suffisamment améliorés pour qu'on arrive à une vision, on va dire, transcendée de l'être humain. Et aussi avec un monde plus pacifique, avec une coexistence des gens.
C'est la laïcité alors ? C'est le fait qu'on peut échanger dans nos représentations que nous ne faisons du divin.
Ce serait plus que la laïcité quand même. Ce serait plus que la laïcité parce que ce serait la fin des crimes, ce serait des choses comme ça. Ce que la laïcité n'entraîne pas forcément. Donc ce serait plus que la laïcité. Mais j'ai envie de dire, la laïcité, ça aide déjà à avoir une relative paix sociale dans nos entreprises et nos écoles, ce qui est déjà pas mal.
Oui. Et nous savons qu'il y a beaucoup de recherches qui sont faites, je pense, à la revue Sens, à l'amitié judéo-chrétienne, qui font qu'à l'intérieur même des courants chrétiens ou même des non-croyants, il y a la recherche de l'interprétation de la Bible. Alors pour vous, la première alliance, la deuxième alliance, la première alliance n'est pas supprimée par le Nouveau Testament.
Alors j'espère que je ne vais pas vous fâcher, mais en fait pour un juif, il n'y a pas ni de première ni de deuxième.
Bien sûr.
Parce qu'il n'y en a qu'une.
Oui.
Voilà. Pour qu'il y ait une première, il faut qu'il y ait une deuxième.
Et il y avait
le pape François actuel,
hommes.
Il ne s'appelle pas François Ier. Il s'appelle François, parce qu'il n'y a pas de François II. Donc, nous, il n'y a pas de premier halte, de même qu'il n'y a pas un Ancien et un Nouveau Testament. Ça, ce sont vraiment de la terminologie très chrétienne. Pour un juif, il y a une alliance.
Nous avons beaucoup de rabbins qui lisent justement les évangiles, comme il y a d'autres philosophes, je pense à Armand Abécassis et bien d'autres, qui s'ouvrent à la recherche d'un sens aujourd'hui pour vivre la terre. Et
ah, ça n'empêche pas de lire tout à fait les écrits des autres confessions. C'est juste un problème de vocabulaire, en fait, qui effectivement va varier d'une religion à une autre.
Mais nous n'avons pas forcément la même Bible ou la même lecture.
Et c'est le tant canon mieux, n'est pas
parce
le même.
Que nous échangeons sur on va dire nos livres. Alors, sacrés, nos livres révélés, nos livres qui sont production de l'homme, de l'esprit.
Alors, moi, je suis libérale, donc j'aurais tendance à vous dire que oui, ces livres, pour moi, sont des livres écrits par des hommes, certainement. Y compris la Torah, et là je vais peut-être choquer certains de mes co-religionnaires, inspirés par Dieu, forcément, mais écrits par des hommes, et donc sur certains aspects teintés de leur époque.
Avec une lecture historico-critique, peut-être,
voilà,
une lecture
exactement.
Littérale ou littéraire.
Une lecture historico-critique, effectivement, il est difficile de comprendre, notamment des lois d'esclavage et des choses comme ça, même si dans la Torah, les lois de l'esclavage sont très modernes, on va dire, pour l'époque. Mais c'est quand même quelque chose qui peut être difficile à comprendre si on ne le prend pas en dehors de son contexte historique. Parce que ce n'est quand même pas une perfection.
Il y a à la fois un nouveau regard, comme dit le Père des Bois ou le Père du Jardin, ou d'autres qui sont des personnes qui ont fait avancer le dialogue entre juifs et chrétiens. Vous avez des personnes qui vous semblent particulièrement admirables, je ne vais pas dire saintes, mais en tout cas...
admirable, ah oui,
qui vous aide.
Pour moi, le Père des Bois, que j'ai croisé une fois à une conférence, mais pour moi, s'il y a un religieux qui a tout compris, c'est lui. Pour moi, c'est le religieux moderne, dans le sens où il a compris qu'aujourd'hui, on attendait peut-être plus d'un homme d'église ou d'un homme de foi, quelle que soit sa religion, une efficacité sociale. Et c'est ce qu'il fait quand il va au secours des familles yézidis, quand il fait le tour du monde pour aider des personnes persécutées. J'ai le souvenir de cette conférence avec lui. Et puis, il y avait un jeune séminariste qui lui fait « Monsieur, mais alors avec ces populations, comment vous les évangélisez ?» Et pardon, mais il engueule le gamin. Mmh. Il se met à l'engueuler en lui disant « Mais enfin, il n'est pas question de les évangéliser. Je ne suis pas là pour ça. Je ne suis même pas là pour les convertir. Je suis là pour les aider. » Et s'il y a quelque chose, à mon avis, dans l'interconvictionnel, dans l'interreligieux qui peut nous souder, c'est vrai qu'on aime bien parler des textes entre nous, tout ça. Bon, c'est très bien. Mais pour moi, je suis quelqu'un de très concret. Pour moi, aujourd'hui, j'aimerais qu'on soit ensemble sur des actions très concrètes. Et ce qu'on peut faire très concrètement, c'est de l'aide sociale, c'est du soutien. C'est effectivement aller faire comme le font dans certains quartiers des rabbins avec des imams, aller discuter avec les jeunes pour calmer les tensions et des choses comme ça.
Et se rappeler peut-être la Shoah par balle, mais vous dites pas forcément dire le kiddush.
Le kaddish, vous voulez dire.
Le kaddish, pardon, la prière des morts.
Alors, le kaddish... bien sûr qu'on lit le kaddish, notamment là, quand il va y avoir l'office de Kippour, on fait un kaddish pour les personnes mortes pendant la Shoah. Donc le kaddish se fait pour tout décès dans le judaïsme, et bien sûr pour honorer les mémoires.
Et je crois même que vous aviez parlé de Jacques Chirac et de son souvenir, parce qu'il a évoqué le...
Alors oui, lors d'un office après la mort de Jacques Chirac, j'ai associé le nom de Jacques Chirac à la lecture où on a fait un kaddish pour toutes les personnes endeuillées. On a ajouté le nom de Jacques Chirac dans la liste des personnes mortes dans la semaine. Alors c'est vrai que c'est pas habituel dans une synagogue de faire une prière pour quelqu'un qui est pas juif. Mais ça se fait notamment pour célébrer des personnes, des grands hommes, des personnes qui ont aidé la communauté juive. Et en reconnaissant la responsabilité française dans la déportation, et notamment l'Arabe du Valdiv, Jacques Chirac a aidé la communauté juive, et il a aidé aussi la France, surtout, à se regarder.
Comme vous priez à toutes les cérémonies pour les chefs d'État, puisque
tout à fait.
Vous êtes...
Le judaïsme une religion... On va la reprendre. Le judaïsme est une religion qui a énormément évolué en diaspora. Donc, il y a une loi comme ça dans notre tradition qui dit la loi du pays est la loi. La loi du pays, la loi, ça veut dire que tu dois te conformer à la loi du pays dans lequel tu vis, si bien entendu cette loi est démocratique, enfin, ce n'est pas quelque chose qu'on nous demanderait des horreurs. Mais c'est très important, bien sûr, la loi religieuse ne doit pas venir heurter de plein fouet la loi du pays dans lequel nous vivons, sinon il y a un problème.
Nous vous écouterions encore longtemps. Peut-être un mot de conclusion pour nos amis auditeurs sur ces jours qui sont des pages. J'aime beaucoup ce que vous nous aviez dit. À toi d'écrire ce dont tu veux qu'on se souvienne. Mais je dois aussi remercier Christophe pour la réalisation et vous dire à bientôt.
À bientôt.